Ex Voto, il est sorti, c'est un album qui est sorti en 2022, et je voulais savoir, comme première question, quelque chose a changé dans ta manière d'interpréter, de jouer les chansons? Une fois que tu es sur scène, est-ce que tu adaptes d'une nouvelle manière ces chansons de cet album?
Bah ouais, et ouais, j'ai beaucoup fait ça justement. Surtout qu'en plus, c'était assez caricatural vu que les chansons, elles ont pas du tout été jouées live avant d'être enregistrées. Donc du coup, tu sais, elles ont été enregistrées un peu avec cette espèce d'hésitation. C'était un peu du balbutiement en fait, tu vois, toutes ces prises pour moi, surtout vocalement. Et c'était vraiment mes premiers mots en français. Donc oui, et là pour le coup, ça a creusé encore plus l'écart qu'on peut retrouver souvent entre le début et la fin d'une tournée. Je suis vraiment partie en tournée avec cet album tout frêle. Et moi en plus, j'aime bien. Je trouve que la tournée, c'est un peu un cadeau créatif, c'est-à-dire que c'est un deuxième espace pour réinventer ses chansons. Et justement, moi, je m'en sers beaucoup. Je vois pas pourquoi je me priverais de ça. Au contraire, pour moi, il y a deux propositions. Il y a l'album et il y a le live. Et j'ai pas du tout fait en sorte qu'il y ait un consensus entre les deux pour les gens. C'est-à-dire que très égoïstement, moi, je trouve ça génial de pouvoir s'exprimer sur un live différemment que sur son album. Donc du coup, je les ai énormément réadaptés et j'ai volontairement voulu casser les voilà le, les souvent celles qui sont les plus soft sur l'album sont les plus rock en live et inversement. J'ai presque fait un effet miroir en fait, quasiment. Et puis oui, donc aujourd'hui, maintenant, quand je m'entends les chanter en live, c'est vrai que ça ma voix a rien à voir et surtout, je pense que je suis aussi devenue une autre personne. Dans mon rapport à mes chansons, c'est comme si j'avais atterri entre-temps. D'un côté, je sens que moi, je suis beaucoup plus en santé quand je les chante. J'en ai fait beaucoup plus le tour et je me sens plus ancrée. Et en même temps, il y a une fragilité dans l'album qui, parfois, c'est marrant, me revient et je me dis, ah, c'était beau aussi cette fragilité-là. Voilà, donc je pense que c'est relativement neutre. J'ai pas
D'accord.
tellement d'avis là-dessus, mais voilà ce qui s'est passé. C'est sûr qu'après 100 dates, on chante plus pareil ces chansons qu'après 0 date.
Je sais que tu as joué aussi à Montréal. Ça arrive aussi que le public du Canada, enfin le public québécois, a d'autres types de réflexions, d'autres retours que celui français. Des
Oh
réflexions qui
oui.
peuvent peut-être aussi t'aider à voir la musique autrement.
Ah oui. Oh bah énormément. Alors dans le public, un peu. Là où ça m'a le plus frappé, c'était plus avec les collaborations. C'était plus l'approche du studio, vu que j'ai fait tout l'album là-bas. Enfin, pas tout, mais une grande, grande, grande partie. Et c'est vrai que déjà, je me suis rendu compte que l'approche était différente sur le continent américain. Mais alors ça, c'est absolument indéniable. Et par rapport au retour des publics, oui, du public, oui. Et ça, je l'ai remarqué aussi. En tournant en Hollande, en Suisse, en Belgique, au Canada et en France, là je vais bientôt partir en Angleterre, c'est très intéressant de voir les retours des. En fait, on s'aperçoit de la culture d'un pays, quoi, voilà. Effectivement, c'est très différent. Par exemple, en Hollande, pardon, je bifurque sur la Hollande, c'était pas du tout dans ta
Pas de
question.
souci.
Mais par exemple, en Hollande, on m'a énormément parlé de ma guitare. Ils sont super guitare. En fait, ils sont très folk. C'est une terre très folk là-bas. Donc, ils sont tous fans de Teun van Zandt. Enfin, ils ont vraiment un rapport comme ça assez dingue au songwriting, au côté folk. Au Canada, qu'est-ce que ça a été les retours? Oui, généralement, c'était aussi un petit peu plus sur l'instrumentation. On est parti en trio là-bas et. Alors, c'est ou très branché texte, parce que là-bas, les Québécois sont extrêmement attachés au français. Donc, c'était très poétique, c'était vraiment là-dessus. Ou alors, c'était carrément plus dans le côté rock, avec ouais, ce qui pouvait se passer dans l'ambiance sur scène entre les musiciens.
Ok, merci.
Voilà. Bon, après, c'est toujours compliqué. Pardon, je fais juste une parenthèse, mais c'est toujours. Je dis ça, mais je peux absolument pas me donner une quelconque valeur de sociologue en étant musicienne, parce que je me rends compte aussi que tout ça, c'est. Il y a aussi des réseaux. Et en France, moi, j'ai tendance plutôt à jouer dans le réseau chanson. qui est aussi un réseau où la critique va être vue par disons, le couloir chanson française. Voilà, je ne joue pas dans le réseau chanson quand je suis en Suisse, par exemple. Voilà, donc c'est aussi. C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas vraiment être sociologue, et tant mieux d'ailleurs, ce n'est pas du tout mon métier.
Y a un point commun entre tous ces publics, vu que tu parles de réseau, est-ce que tu as trouvé, pas peut-être pas un profil type, mais des comportements ou des goûts, les goûts et les couleurs, qui se retrouvent un peu chez chacun?
Ben, Oui, alors, le seul truc que j'ai observé, c'est que le réseau chanson a tendance à... La chanson, c'est très particulier, en tout cas en France, a tendance à voir la musique d'une certaine manière. Moi, je me retrouve être en marge de ça. Je vois bien que je suis complètement en marge, parce que moi, j'ai pas écouté de chanson française du tout. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Et j'en ai pas du tout écouté. Je me suis mise à chanter en français pour d'autres raisons. Voilà, peut-être qu'on en viendra là. Mais ce qui m'a amené à faire pour moi, je fais de la folk en français, c'est très différent. Et la musique est quasiment, enfin, oui, est même presque plus importante que les paroles pour moi. Donc, en fait, quand je me retrouve dans ce réseau-là, effectivement, je me sens un tout petit peu en marge parce que c'est souvent des gens qui vont me dire que la voix n'était pas assez forte pendant le concert, qu'ils auraient aimé entendre plus ces paroles ou ce genre de choses. Mais après, je te dis ça, mais en fait, pour répondre à ta question, je n'arrive pas du tout à faire de science sur ce que veulent les gens. Je pense que tout ça est complètement opaque et incompréhensible, et tant mieux, en fait, parce que c'est du coup, c'est magique. Qu'est-ce qui fait que ça prend ou que ça prend pas? Franchement, j'en sais rien. Et plus j'avance, moins je comprends. Donc, ouais, je sais pas.
On a parlé de la forme, mais là on va parler un peu plus du fond, bah, par rapport à tout ce qui entoure ton univers, les chansons. Dans un article de L'Essentiart, ou L'Essentiart, je ne sais pas comment ça se prononce,
Ouais, je sais pas.
tu déclares la mélancolie m'a permis de créer de la beauté. Et c'est en lisant ce genre de phrase, de citation, je me suis dit, mais tu n'as jamais eu peur de ne plus savoir puiser dans cette même mélancolie pour ensuite composer des chansons?
Peur
Bah de
de ne
dire que
retourner
voilà, il
colla.
n'y a que cette source d'aspiration là,
Ah
et de dire que je ne saurais plus avancer
ouais,
sans la
ah
mélancolie.
oui. Ah, c'est une vaste question. Bon, ben, moi je crois que mon rapport à la mélancolie change. Donc en fait, c'est une très bonne question, hein. C'est toujours un peu l'éternelle question de est-ce qu'il faut être en souffrance pour pouvoir créer? Oui, je pense que c'est un petit peu effrayant parce que au bout d'un moment, a priori, si on écrit des chansons, enfin en tout cas, si on a cette pulsion de vie lumineuse qui fait qu'on a envie d'écrire des chansons ou de faire n'importe quoi pour se sortir de là, c'est que a priori, si on y arrive, c'est que ça va marcher. Enfin, c'est pour ça que j'ai acheté appelé l'album Ex Voto d'ailleurs, c'est que c'est presque pour m'auto-remercier. Ou remercier simplement ce qui fait que chez un être humain, il y a cette possibilité de se relever en créant quelque chose. Je trouve ça formidable. Et pour moi, ça relève du miracle. Et je pense que surtout, ce qui fait que aujourd'hui, je me sens vraiment prête à réécrire des chansons, c'est parce que je crois qu'en fait, simplement, mon rapport mélancolique en lui-même n'est jamais le même selon ce qui m'arrive dans ma vie. Et je crois que la mélancolie, pour moi, en fait, en vrai, ça serait... C'est plus ma faculté à observer ce qui me touche autour de moi. Et je crois que c'est... Comment dire? Oh, comment expliquer ça? Mélancolie ne veut pas forcément dire tristesse pour moi. Voilà. Pour moi, la mélancolie, c'est un petit peu comme la suspension du temps. C'est-à-dire, ça serait juste l'idée de figer quelque chose et de dire, oh, c'est beau. Alors oui, il y a forcément une toute petite tristesse qui arrive en disant, oh, ben ça va s'en aller parce que tout est impermanent, donc j'ai envie de le figer. Mais je crois qu'en tout cas, quand je le fais dans la création, l'idée c'est que juste je voudrais extraire ce moment suspendu et essayer de le garder avec moi pour toujours, quoi. Voilà, je sais pas si c'est très clair, hein, j'essaie de mettre ça en mots.
Je comprends tout à
Ouais.
fait. Bah, c'est souvent, il y a un peu, c'est un peu cliché de dire ça, mais j'ai l'impression que le malheur inspire beaucoup plus que le bonheur. Et c'est
Bah
pour
oui.
ça que je voulais absolument aussi en parler.
Oui, mais c'est vrai que en fait, moi je me dis souvent, j'ai souvent cette réflexion avec les copains qui font le même genre de choses, que en fait, c'est plus facile d'accéder à ça par du malheur. Disons que c'est la voie directe. Pour moi, c'est comme l'autoroute un peu. Mais je crois qu'on si on fait un petit peu d'effort, on peut aussi prendre les petites routes et arriver à autant de beauté sans vivre un très grand malheur. Et tout ça, c'est juste une question de flamme. Et c'est la question de qu'est-ce qui reste éveillé. Et effectivement, dans le malheur, on est en survie. Mais ouais, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce... quand il arrive un grand malheur, on est tellement en survie que du coup, forcément, il faut vivre. Donc là, là arrive la beauté. Mais je pense qu'en même temps, cette espèce d'urgence de garder cette petite flamme allumée, on peut aussi travailler. Et ça, c'est un peu le niveau 2, quoi. Disons qu'en fait, écrire grâce à un chagrin, c'est niveau 1. Dans le grand Adibou, tu connais Adibou?
Non.
C'était un jeu pour enfants,
okay.
Avec des niveaux quand j'étais petite. Enfin, en gros, dans le grand jeu de la création, peut-être que c'est niveau 1, c'est ça. Et puis peut-être que si on a envie, on peut passer au niveau 2. Et là, du coup, il faut redoubler d'efforts parce qu'il faut prendre les petits sentiers. Et j'imagine que pour faire une carrière sur de long terme, on est un peu obligé de faire ça, quoi. Mais j'en sais rien, moi, j'ai pas écrit deuxième disque, donc je dis tout ça, mais tout ça est très intellectuel pour l'instant. Je sais pas si je vais y arriver.
Ok. Il y a un titre que j'aime vraiment tout particulièrement, et c'est celui qui s'appelle « Comme la fin du monde ». Il y a une question qui m'est arrivée directement à l'esprit en écoutant les paroles. Mmh. Es-tu convaincu que notre identité soit forgée à travers le regard des autres?
Oh, Gab, grande question, super question. Ben oui, alors ben, je pense que c'est toute la question de la chanson. Et c'est marrant que tu prennes cet angle-là, ça me fait plaisir, parce que c'est rare qu'on arrive à comprendre ce truc-là. Je crois que c'est la question que je me pose, et je pense que c'est la question un peu existentielle, quoi. Pour le coup, c'est vraiment Jean-Paul Sartre, quoi. C'est vraiment, c'est est-ce que l'enfer c'est les autres ou pas? J'en sais rien. Je crois que j'en suis pas du tout convaincue. Au contraire, je dirais, si vraiment je devais te répondre avec ma conviction interne, purement instinctive, je te dirais que non. Que je crois qu'il y a une identité profonde et que elle existe, voilà. Après, ça c'est mon instinct et c'est comme ça que moi j'arrive à vivre parce que sinon c'est impossible. Mais moi personnellement, je sais pas du tout si, enfin ça c'est mon instinct, mais je suis pétrifiée par le regard des autres de temps en temps. Je me débat beaucoup avec ça, mais la musique m'aide énormément à en sortir justement. Voilà. Mais merci de poser ça sur cet angle-là parce que je pense que c'est vraiment la question de la chanson.
Et par rapport aux accords, quand on écoute la chanson Black Hole, mm-hmm. on a l'impression qu'il y a des accords qui sont assez similaires avec Comme la fin du monde. Est-ce que dans ta manière de composer, tu pars avec des accords fétiches, dirons-nous, et puis après tu te lances?
Alors, si je te réponds très pragmatiquement, à l'époque, je jouais pas tellement de guitare.
Okay.
Donc, j'avais pas 36 accords à jouer, dans le sens où, tu vois, j'étais vite un peu dans des positions qui étaient les mêmes. Et je pense qu'instinctivement, c'est mon corps qui compose avant ma tête. Donc, je prends une guitare et puis je me balade là où c'est agréable, là où ça fait sens. Donc, mon corps a composé ça comme ça, probablement parce qu'il y a une mémoire des positions. C'est marrant, c'est là où je vois que je suis en Belgique parce qu'on parle des accords. Ça fait plaisir, c'est rare.
Ah ok, pourquoi comment ça se fait que ça
bon,
soit
c'est rare.
Ah, okay.
Ouais, je sais pas, en France c'est un peu rare. Mais donc oui, c'est un peu le corps qui compose et qui va par là. Mais je crois que oui, ça me rassure aussi. J'ai un peu mes petits accords que j'aime bien, si je dois te répondre. Ouais, je fais partie de ces gens qui m'ont... Tu vois, une petite suite d'accords qui revient, j'aime bien. Et puis, j'aime bien les albums qui proposent ça aussi. Tu vois, j'aime bien les... Sans du tout comparer au Ex-Voto à ça, mais j'aime bien les opéras rock. J'adore Abbey Road des Beatles, tu vois, avec les mêmes genres de mélodies, de thèmes qui reviennent. Ça me plaît.
Justement, il y a quelques jours, je disais à mon grand frère que je ne comprenais pas les gens qui n'aiment pas les Beatles.
Ah voilà, oui, moi aussi.
Donc,
je pense
c'est vrai que ça fait plaisir là aussi de voir.
Ouais.
Mais que enfin, si chaque auditeur, chaque auditrice qui a poncé la discographie des Beatles,
oui.
Il y a un peu une hantise de se dire à quel point ils ont influencé le monde musical, parce que c'est même dans. Que ce soit le rythme. La façon de composer des mélodies, le style. Il y a vraiment ça. Est-ce que toi, t'es arrivé à te détacher de tes influences quand même?
Ben, c'est marrant, c'est des discussions qu'on a avec mon copain beaucoup, justement, parce que lui, il est musicien aussi. Il est toujours en train de regarder des docus sur les très grands, comme ça, tu vois. Les grands, tu vois, les Rolling Stones, les Beatles, Jimi Hendrix, tu vois, ces trucs-là. Et justement, c'est marrant parce qu'on a ce débat un petit peu, enfin, pas ce débat, mais moi, je veux dire, oh là, je sais pas comment tu fais, moi, j'y arriverai pas. Moi, je peux pas faire trop ça parce que sinon, déjà, ça me démoralise complètement. Tu vois, j'ai un peu ce truc où j'essaie de me forcer à idolâtrer aussi des gens peut-être moins connus et peut-être aussi moins révolutionnaires, mais je me force à. J'ai un truc qui me rassure dans ma. Tu vois, je sais pas si tu vois, j'ai ma petite. Ma discothèque, quoi, avec mes disques, et dedans, je me force toujours un peu chez les disquaires à aller justement au-delà des grands classiques. Enfin, à côté des grands classiques, parce que je crois que ça me rassure, en fait. Tu vois, moi, je peux être très impressionnée par. L'autre fois, j'ai appris que Kate Bush avait écrit toutes ses chansons à 17 ans. Ça m'a. Et parce que je peux pas m'empêcher de me comparer, donc je me dis c'est pas possible, c'est impossible, c'est surhumain, tu vois. Et donc pour revenir à quelque chose de plus humain, j'essaie toujours de me forcer à aussi laisser de l'espace à des artistes plus petits, en fait, voilà, qu'on fait des plus petits chemins peut-être. Donc voilà, mais après pour les classiques, oui, ben, par rapport aux gens que j'admire, ouais, ben, écoute, j'ai mes petites techniques, visiblement, je pense que je dois pas être la seule, j'ai une copine qui fait pareil. Moi, je me force, quand je suis en création, je me force à ne plus écouter la personne qui m'obsède du moment, quoi, tu vois, parce que j'ai trop peur de reproduire.
Ah, ok.
Donc par exemple,
Inconsciemment.
ex-voto, je me suis forcée à pas écouter Laura Marling. C'est difficile, mais je me suis forcée, parce que je voyais bien qu'elle m'influençait tellement de base que voilà.
Ah, c'est
Voilà, donc c'est tout
intéressant comme
bête, hein, c'est une
démarche.
petite technique. Ouais, ben, c'est vraiment très prosaïque, hein, tu vois, c'est vraiment une technique un peu bête, mais ouais, ça, effectivement, je m'en méfie.
La solitude, elle tient une part importante dans ton univers. Et pour la dernière question, je souhaitais savoir, quelle serait ta collaboration de rêve pour une ou plusieurs chansons?
Alors pour écrire la chanson?
C'est vrai qu'on
Ou pour la
peut...
chanter.
Oh, je te laisse choisir.
Ouais. Ah, ben, peut-être les deux. Alors, dans ce cas-là, si c'était pour écrire, je dirais un mix entre Harry Nilsson et Paul Simon. Et je crois plutôt Paul Simon.
Ok.
Si je pouvais coécrire une chanson avec lui, ça serait Barge. Et pour la chanter, je crois que j'adorerais chanter avec. Il y a vraiment plusieurs voix dingues. Attends, je vais essayer de rêver grand quand même.
Baquet de
Ouais, oh là, oh non, 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 je serais trop pétrifiée. Peut-être Feist, par exemple.
Ah, c'est une chanteuse
Québécois,
anglophone. Ah
ouais,
ouais.
enfin non,
De...
canadienne, ouais.
Ouais, ok, qui avait décidé de ne pas faire la tournée avec Arcade Fire, c'est ça?
Ah oui, ouais.
Oui, mais je n'ai pas encore écouté, ou alors j'ai dû écouter, mais il faudrait
Ouais,
que je m'y
Feist,
mette.
si t'as l'occasion d'écouter le dernier album, il vient comme il s'appelle comme celui de chez vous, comme Stromae, il s'appelle Multitude.
Ah oui, ok.
Et c'est magnifique, ouais, Feist, c'est vraiment très 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 beau, l'album qu'elle a sorti. Oh bah typiquement, tu vois, lui, je vais m'empêcher de l'écouter quand j'écrirai le prochain album. Parce
Ok.
qu'il est en train de me marquer énormément et je voudrais pas avoir l'impression que. En fait, j'ai un peu. Attends, comment dire ça? Moi, je fais la différence entre la démarche et la démarche, disons, humaine et l'esthétisme. Je pense que c'est important de faire cette différence-là. Et en fait, c'est important de la faire parce que sinon, on confond les deux. Et tu vois, par exemple, l'album de Feist, c'est difficile de démarquer les deux parce que je pense qu'en fait, il est très émouvant parce qu'il est très sincère, ce qui, ça relève de la démarche. Et en même temps, esthétiquement, il me plaît beaucoup. Et sauf que moi, là où je veux bien imiter Feist, c'est dans sa sincérité, mais c'est pas dans son esthétisme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toujours un peu cette confusion qu'on parfois où tu te dis, ah, il faut que je chante comme elle pour que ce soit beau. Mais en fait, ce qui est beau, c'est pas le son de sa voix. Ce qui est beau, c'est que ce soit sincère. Tu vois? Et
Oui,
tu sais, j'essaie de faire cette différence un petit peu, de me forcer à me dire, attends, là, recopier esthétiquement quelque chose, ça a aucun sens. Ce qui va émouvoir les gens, c'est que je fasse ce qui se passe vraiment au fond de moi. Ça va être beau, en
et
fait.
comment ça se traduit
Et
le mieux
voilà.
alors, c'est au niveau des paroles?
Ben, oh non, non, vraiment, ben les deux, le son de la voix, les paroles, la suite d'accords qui vient, tu vois. Mais je pense surtout le son de la voix, pour ça, par exemple, tu vois. Je pense vraiment beaucoup qu'il y a vraiment beaucoup de gens Et la, voilà, je pense qu'il y a très peu de gens qui chantent vraiment avec leur vraie voix. Je pense que ça,
Ah,
c'est
mais qu'est-ce
très
que
rare, en
intéressant
fait.
ça.
Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui imitent beaucoup, et même des gens très grands. Mais ouais, je pense que ça prend du temps de trouver sa vraie voix. Vraiment, c'est pas si simple, quoi. Et bah, d'ailleurs, tu le vois, les premiers albums des gens, moi, je trouve ça hyper intéressant. Les premiers albums des légendes, tu vois qu'ils imitent quelque chose, tu vois, souvent. Et c'est trop mignon, c'est super. Moi, je fais pareil, tu vois, on fait tous ça un peu. Et puis après, voilà, c'est toute une démarche pour vraiment sonner comme on sonne, quoi, vraiment, sans essayer d'imiter.
C'est à force de chanter
Compliqué.
alors que peut-être ça le déclic peut avoir lieu.
Oh oui, je pense. Je pense que c'est la chance de tourner, ça, beaucoup. Ouais. Je crois que ça, c'est vraiment la chance d'aller sur scène. Certainement.
Eh bien, merci beaucoup pour cette
Bah,
interview.
merci à toi, Bruno.